France Inter. Le masque et la plume. Les critiques du masque sont au théâtre de l'Alliance française et dans les salles cette semaine avec les films de cinéastes canadiens, belges, français et roumains. Pour en débattre sur scène, les forces en présence sont Florence Colombani du Point, Christophe Bourseiller du magazine Transfuge et de France Inter, Pierre Murat tel qu'en lui-même et Muriel Joudet du journal Le Monde. Au programme précisément figurent les linceuls de David Cronenberg, les musiciens de Grégory Magne, Tu ne mentiras point de Tim Mielants, Ce nouvel an qui n'est jamais arrivé de Bogdan Mureșanu et Rumours, Nuit blanche au sommet de Guy Madin et des frères Johnson, un quatuor de Stradivarius, Les derniers jours de Ceausescu, un cimetière high-tech ou des zombies au sommet du G7. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Masque. Vous êtes pour La chambre de Mariana d'Emmanuel Finkiel, adaptation du roman d'Aaron Appelfeld. En revanche, vous êtes contre le dévoilement de la fin qui gâche le plaisir du spectateur. Inès Schuss propose d'ailleurs l'instauration d'un gage à définir pour tous les divulgateurs. Concernant le film, Jacques Bordereau dit avoir été impressionné par la mise en scène de La chambre de Mariana, autant que par l'interprétation prodigieuse de Mélanie Thierry. Rien de choquant à mes yeux, écrit cet auditeur, dans la relation du personnage de prostituée qu'elle interprète avec le garçon juif qu'elle recueille. Beaucoup de délicatesse au contraire. Film poignant, bouleversant, mémoriel, ajoute Robert Vettoretti. Et voilà que certaines appellent MeToo à la rescousse dans leurs critiques. Un peu ou beaucoup d'amour, quel qu'il soit, est un bonheur étincelant dans ces heures si sombres, conclut cet auditeur. Sabine et ses bons, tempête contre, je cite, les passionnariats peu passionnantes du féminisme d'attitude bourgeoise. Olé. Comme vous voyez, le courrier de la semaine compte quelques mots doux. Quand d'autres auditrices et auditeurs jugent que féministe, le masque ne l'est pas assez. Faites vos jeux. Et donc Sabine Essebon défend, elle, le mélange des genres de Michel Leclerc, qui, je cite, nous fait marrer sur un sujet sérieux. Le film est drôle et rempli de trouvailles pour parler des hommes d'aujourd'hui. Lila Almosnino y voit le ton de certains films anglais, avec ce qu'ils ont de décalé et de burlesque. Enfin, sur Instagram, Émile écrit « Merci à Pierre Murat d'avoir cité une réplique de Danny Glover dans L'Arme fatale pour parler de l'amour, c'est surcoté. » Cette réplique, Pierre, c'était
« Je suis trop vieux pour ces conneries. »
Après quoi, Émile explique « En citant L'Arme fatale, vous m'avez permis de découvrir cette série de 4 comédies policières en 4 volets. » Entre parenthèses, j'ai trouvé l'info sur Internet. « J'ai donc appris que le dernier Arme fatale était sorti en 1998. Je n'étais pas née. Quand Pierre Desproges était sur scène, je n'étais pas encore de ce monde non plus. Mais ça, je connais et je l'aime. » Alors Pierre, l'amour c'est surcoté, Marie, Desproges et le stand-up contemporain sur un écran de cinéma. Allons le revoir ensemble, j'ai une carte tarif réduit. On commence avec Les Linceuls, nouveau film de David Cronenberg présenté à Cannes il y a un an pile et finalement sorti il y a 10 jours. Karsh est un homme d'affaires d'une 50aine d'années, veuf et inconsolable depuis la mort de sa femme Becca. Pour continuer d'être à ses côtés jusque dans sa tombe, Karsh a mis au point un linceul high-tech qui permet de suivre l'état de décomposition des défunts par écran interposé. De fait, les tombes m'ont fait penser à des smartphones géants. Une nuit, des tombes dont celle de Becca sont profanées et les caméras des linceuls hackées. Le film devient alors thriller à hypothèses multiples et dialogue copieux. Diane Kruger interprète plusieurs versions de Becca, l'épouse défunte de Karsh, et Vincent Cassel, dans le rôle de Karsh, je n'ai pas encore dit, retrouve Cronenberg pour la 3e fois et il lui ressemble physiquement plus que jamais. Florence.
C'est un film étrange parce qu'il y a 2 films en un, comme il y a 2 femmes dans le film qui sont un écho de Vertigo, c'est 2 visages d'une même femme jouée par Diane Kruger. Et il y a aussi 2 films dans un film. Il y a d'un côté, comme tu disais, ce thriller d'espionnage très virtuel, trop virtuel et un peu poussif.
Auquel on a du mal à s'intéresser.
Beaucoup de mal à s'intéresser et qui donne lieu notamment à une scène carrément un peu ratée d'explication dans une rivière, très bizarre. Donc ça, c'est le premier film. Mais il y a un autre film qui est sur le processus du deuil. Et pas n'importe quel deuil, mais vraiment le deuil charnel, le deuil érotique. Et ça, c'est très intéressant. C'est quelque chose de totalement, à ma connaissance, jamais traité. Enfin, j'ai l'impression que Cronenberg vraiment nous offre là son regard sur quelque chose qu'on n'avait pas déjà vu. Et donc, c'est l'idée que cet homme, Karsh, il était lié à sa femme Rebecca, Becca, mais quand même Rebecca Hitchcock un petit peu, par un lien charnel très puissant. Il y a de très belles répliques là-dessus. C'est quand même un film assez poétique dans ses dialogues, un peu solennel, mais ça donne lieu à des moments qui sont forts. Et donc, ce lien charnel, en le perdant, il s'est perdu lui-même. Il cherche à le retrouver, à le reconstruire. Et ça ne va pas tellement être à travers les linceuls. Tout ça, c'est un peu un trompe-l'œil, cette histoire. En revanche, là où le vrai sujet est, c'est sur la mort de sa femme, qui va être remplacée par sa sœur, également jouée par Diane Kruger. Et le lien charnel se reconstitue là. Et ça, c'est passionnant. Et là, ça donne lieu aussi à des scènes qui sont entre des réminiscences, des flashbacks ou des projections fantasmatiques, on ne sait pas trop, avec sa femme au moment où elle souffrait d'une maladie, donc avec des scènes, enfin, une sorte de progression des mutilations sur son corps, qui sont vraiment très belles. Et je trouve que Cronenberg reprend finalement le fil de Crash, qui était son grand film sur l'érotisme de la mutilation, un film très troublant, très dérangeant, qui avait fait date. Là, c'est troublant, dérangeant, mais pas tant que ça. Il y a aussi quelque chose d'assez mélancolique et vaporeux, qui est assez bien incarné par Vincent Cassel, une silhouette
très romantique,
belle
et romantique aussi.
Très romantique, exactement. Vraiment une histoire d'amour, fondamentalement. Donc là, je pense que avec ces deux films en un, qui s'expliquent par le fait que le film avait été prévu comme une série, et comme toujours dans les séries, il faut plusieurs films narratifs. Mais on a tellement plaisir dans un des films que c'est pas grave. C'est pas grave pour ses défauts.
Pierre ?
Ah bah pour moi, il y a un seul film. Mais il est...
Lequel ?
Il est loupé, quoi. Enfin, non, il est assez loupé. Non, mais pour être tout à fait honnête, parce que moi, je suis un fan de Cronenberg, donc je retrouve pendant une vingtaine de minutes cet art qu'il a, et qui vraiment n'appartient qu'à lui, selon moi, de créer le fantastique, la magie, avec ce cimetière bizarre que l'on découvre, ces linceuls que l'on surveille. Mais ça dure 20 minutes, c'est-à-dire qu'après, il n'y a pas de scénario. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la situation est posée, tout ce que l'on raconte avec des personnages qui n'existent pas, qui sont des zombies, le seul qui existe un peu, c'est le frère du personnage principal, interprété par Guy Pearce, parce qu'il est un peu humain.
Moi, je trouve pas. Je trouve que ça, c'est un personnage vraiment raté.
Ah ben c'est le seul auquel on peut s'intéresser, parce que tout le reste...
C'est le seul qui n'est pas onirique, écoute. C'est formidable, un film onirique, quand même, de temps en temps.
Mais c'est onirique, si tu veux. C'est surtout un petit peu bêta et très ennuyeux, parce que c'est un dialogue très, 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 très pesant. Et alors, à la fin, ça devient... On se demande où ça va, tiens. Et alors, je ne divulgage pas, malheureusement, le truc. Mais alors, la fin, tout ça... Pour ça. Ah non, non.
Au contraire, la fin est magnifique. N'écoutez pas.
Il faut non, mais je suis un grand fan de Cronenberg, mais là, il faut qu'il travaille.
Oui, alors j'avoue que je suis à la fois pas d'accord et d'accord avec ce que vient de dire Pierre, c'est-à-dire que moi, pendant toute la première moitié du film, j'ai été envoûté. J'ai trouvé ça fascinant, dérangeant, malsain, glauque. Oui, moi, j'ai trouvé personnellement que Vincent Cassel est une espèce de spectre angoissant, que Diane Kruger est une espèce de fantôme en décomposition. Il y a là quand même une idée assez dingue qui est que je suis tellement amoureux de ma femme que je mette une caméra dans la tombe pour la voir se décomposer.
Oui.
C'est quand même ça, le film.
Mais oui.
Je veux dire, il y a une violence incroyable là-dedans.
20 minutes.
Et puis alors, là, j'ai été sur un espèce de petit nuage sombre et glauque pendant une demi-heure. Et puis, j'ai assisté en direct, là, je te rejoins, au naufrage du film, parce que l'histoire s'enlise complètement dans une espèce de thriller débile avec des. Alors, si j'ai bien compris, des Chinois utilise un réseau de tombes connectées pour espionner l'Occident. Alors, vous voyez, on en est là. Donc, évidemment, je comment
ça n'est pas la seule hypothèse.
Non, mais c'est moi, c'est ce que j'ai compris. Donc, si vous voulez, évidemment, à ce degré de bêtise, on se dit, c'est quand même dommage parce que il est parti, il a pris son envol et puis il a chuté en, vous voyez, c'est Icar. Quoi, voilà.
Tu as regretté de ne pas rester sur ton petit nuage sombre.
J'aurais dû partir
au
bout d'une demi-heure. Je sais pas pourquoi je suis resté.
Mais Muriel l'a vu en entier, j'en suis sûre.
Oui, bien sûr. Mais non, c'est vrai que le scénario, je pense qu'on est tous d'accord, le scénario scénario est malade. Il y a vraiment une sorte de vertigo en décomposition qui n'est pas en plus un film forcément construit d'un seul bloc. Mais il y a quand même des intuitions, des idées absolument géniales. Et moi, je me suis dit, en fait, peut-être qu'il ne voulait pas faire un film et peut-être qu'en fait, le film est une sorte d'installation ou d'exposition avec, d'un côté, une installation. Le film s'ouvre sur une installation presque d'art contemporain. Des tableaux aussi, parce qu'on a une sorte d'équivalent de Vénus de Milo à un moment. Et j'ai vu vraiment le film comme notre voyage à l'intérieur de cette exposition cronenbergienne. Et ce qu'il nous dit, et qui est absolument génial, en dehors du fait qu'il faut quand même se taper ce complot et ce scénario alambiqué, c'est qu'on veut mettre du visible partout, qu'on veut mettre des images partout, jusque même dans cet endroit qui est peut-être l'endroit où on ne peut pas en mettre et qui est un cercueil. Et puis il y a aussi quelque chose sur le regard masculin, en fait, sur un regard qui ne veut pas laisser tranquille sa femme en train de pourrir. Je trouve ça absolument génial par rapport à ce qu'est l'histoire du cinéma. Oui. Et la dernière idée, peut-être, pour moi, qui est que même la pire des images numériques, je pense que c'est important, nous berce et que quelque part nous réconforte. Et quand je vois Vincent Cassel qui regarde son iPhone comme on regarderait un babyphone pour surveiller un bébé qui dort et qui se berce avec cette image qui est horrible, sachant que toutes les femmes autour de lui ne supportent pas cette image, pour moi c'est ça, c'est on a besoin de l'image pour nous réconforter.
Est-ce que quelqu'un souhaite participer au débat critique pour Les Linceuls de David Cronenberg ? Non, aucun bras ne se lève dans la salle. Donc après Les Linceuls de David Cronenberg, on va passer à Tu ne mentiras point du cinéaste belge Tim Mielands. C'est avec ce réalisateur que Cillian Murphy fait son retour sur grand écran. Après son Oscar pour Oppenheimer, Cillian Murphy est par ailleurs coproducteur de ce film qui se déroule dans son pays natal, à savoir l'Irlande. Nous sommes en décembre, à l'approche de Noël, au milieu des années 80. Mais parfois, on pense être dans des temps bien plus reculés. Cillian Murphy est Bill Furlong, père attentif de 5 filles. Il est charbonnier et à l'occasion d'une livraison pour le couvent de la ville, il assiste à la scène suivante. Une jeune fille supplie sa mère en hurlant de ne pas la placer dans cette institution. Jusqu'à la fin, le film adopte et questionne la position de témoin de Bill Furlong. La situation des jeunes filles enfermées le renvoie à son enfance, qui lui revient par flashback. Le scénario est une adaptation d'un roman de Claire Keegan. Emily Watson interprète la mère supérieure du couvent, dont l'histoire vraie avait déjà fait l'objet d'un film de Peter Mullen il y a plus de 20 ans. Pierre.
Oui, c'était un film qui était un pamphlet, qui s'appelait Magdalene Sisters, qui avait obtenu le Lion d'Or à Venise, ouais. Et qui était un peu massif. Mais enfin, ça dénonçait très bien les choses. Là, je trouve que c'est un film vraiment que j'aime beaucoup, pour le personnage qu'il dépeint. Alors, je commence juste par le petit détail un petit peu moins bien, c'est la photo que je trouve magnifique, certes, mais on sent tellement que le chef-op vise l'Oscar, quoi, parce que c'est tout est d'une sombre, mais juste avec la lumière qu'il faut, bon, on voit presque rien, c'est très beau, c'est magnifique, mais c'est un peu surfait, et puis le titre français qui est complètement idiot. Mais ce qui m'a vraiment...
Sachant que le titre anglais, c'est « Small Things Like These », qui est le titre du roman de Claire Keegan. Voilà.
Mais ce qui vraiment, moi, m'a plu, c'est le personnage qui, pour moi, je l'ai vu comme un héros de Dostoïevski, c'est-à-dire que c'est pas Raskolnikov, mais c'est Mnouchkine, c'est-à-dire qu'il a cette bonté en lui et il ne sait pas comment l'exprimer en quelque sorte. Il y a par exemple une scène très simple du héros qui revoit un petit gamin sur comme ça, et le gamin est là dans le froid et il ramasse du bois mort, quoi, parce qu'on est dans la misère totale et il veut l'aider. Il ne sait pas quoi faire, il lui donne quelques sous parce que c'est la seule chose qu'il puisse faire. Et c'est rien du tout comme séquence. Et je trouve que jusqu'au bout, l'acteur, le metteur en scène, arrive à nous donner cette impression de suspense. Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout du bien qu'il sent en lui et qu'il va pouvoir donner ?
Et qu'on ne va pas révéler Muriel.
J'aimais bien Cillian Murphy, parce que j'ai appris qu'il n'avait pas d'agent, pas de styliste, et qu'il prenait des avions, comme le commun des mortels, les avions normaux. Et puis, j'ai vu ce film, et je me suis dit, mais peut-être qu'il devrait avoir un agent, en fait, parce que c'est vraiment le typique du film, de l'acteur qui se paye un film, qui le produit pour se donner le beau rôle. Il ne joue avec personne dans le film, il joue avec des flashbacks. Et c'est vraiment le film qui m'a fait me dire, il faut abolir le flashback, tout simplement. C'est-à-dire que l'idée que l'enfance revienne sous des flashbacks traumatisants et que Cillian Murphy, à la scène d'après, ne fait que réagir, se réveille la nuit.
Mais ces flashbacks sont magnifiques en plus.
Pas du tout, c'est une sorte de cliché, la grammaire cinématographique. Et le pire, pour moi, le plus dur à avaler dans cette idée finalement que Cillian Murphy se paye le beau rôle, c'est que autour les personnages féminins sont horribles. C'est-à-dire qu'il va voir sa femme, il lui dit il se passe un truc chelou dans ce couvent, elle lui dit tu ferais mieux de te calmer,
Elle a besoin de ce fric et il le donne à un gamin. En quoi est-elle horrible?
C'est juste un truc de vrai. Un moment quand la star du film aspire toute l'énergie et toute la positivité d'un film, il y a un problème de scénario. Et voilà, c'est juste ce problème d'un film qui n'a d'autre enjeu que de faire de Cillian Murphy un héros sublime.
Toi, tu dis Cillian. Tu dis Cillian, donc on va dire Cillian Murphy.
C'est pas Cillian.
Christophe Cillian. Je crois qu'on dit Cillian. Allons-y.
Cillian. Moi, j'aurais dit Cillian puisque c'est un C. Enfin bref. Alors, c'est beau. C'est lent. C'est triste, c'est contemplatif, c'est politiquement correct. Alors c'est vrai que Cillian Murphy incarne avec beaucoup de grâce un taiseux, donc il parle jamais. Donc on sent monter en lui l'injustice, quoi. Mais en même temps, il le montre pas. Enfin bref, donc c'est vrai que ça tourne autour de lui. Ça décrit quoi? Un homme éteint, en pleine déprime, qui dénonce les sévices d'une institution catholique. Donc moi, j'ai pas tellement envie de m'infliger ça.
L'appel de la bonté, ça vous a pas touché tous les deux?
Ben non. C'est pas l'appel de la bonté. C'était
l'appel de Cillian Murphy.
Et je procède à l'appel de Florence Colombani.
Oui, alors je vais essayer de départager tout le monde. Non, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a ce titre, Tu ne mentiras point, qui est d'une solennité quand même épouvantable, alors que le titre originel du roman, qui est très beau d'ailleurs, c'est Ce genre de petites choses. Et en fait, tout est là, dans cette tension entre quelque chose d'extrêmement pesant dans le côté donneur de leçons et... quand même, une attention aux détails, cette façon de scruter un visage. Je trouve que Cillian Murphy, pour le coup, par moment, il a vraiment un visage de cinéma. Il se passe quelque chose sur son visage. Quand la caméra reste sur lui, c'est beau. Moi, je suis comme Muriel, ces flashbacks, je les trouve vraiment très maladroits, très pesants. Et donc, ce côté étude du trauma, qui est quand même devenu un genre en soi du cinéma, où on prend un personnage traumatisé, on étudie en quoi ça rejaillit sur lui, sur son entourage, on revient aux sources pour comprendre, c'est très très prévisible. Et en plus d'avoir quand même la mère supérieure comme la grande méchante, on est quasiment dans le film d'horreur de Grand Guignol, Emily Watson, qui peut être une comédienne extraordinaire, là elle n'est pas du tout servie.
Mais elle est lauréate d'un prix d'un festival international de Venise, je crois, ou de... Non, ça vous
pour
dit rien
film?
Non.
Ah ouais,
bon. Alors, fausse pioche. En tout cas, vous n'êtes pas d'accord, y compris pour la prononciation du comédien, du prénom du
tout
comédien principal, Cillian ou Cillian Murphy, au choix. Une intervention du public pour Tu ne mentiras point. Oui, à gauche. Ah, je crois que c'est Guy. Bonjour.
Je confirme, bonjour. Bonjour, bonsoir. Je confirme, c'est un film excessivement sombre, mais pas sombre dans l'intention, sombre dans la lumière. Ça se passe en 1985 et on a l'impression qu'en Irlande, il n'y a pas d'électricité. C'est insupportable, c'est chiant. J'y allais pour Emily Watson et finalement Cillian Murphy, mais je suis sorti de là très, très, très déçu. Quoi.
Voilà. En tout cas, vous êtes de la team Cillian, Guy. Une autre
absolument Cillian, je confirme.
Une autre intervention. Bonjour.
Alors, pour ma part, j'ai trouvé le film plutôt imparfait. C'est vrai qu'on peut lui reprocher notamment ses effets de mise en scène un peu pédants pour venir traduire le traumatisme du personnage. Toutefois, je trouve que quand même il a de grandes qualités. Je pense notamment à sa capacité à laisser une marge interprétative chez le spectateur. Mais j'ai trouvé aussi qu'il avait une capacité particulière de mettre en scène la violence, notamment celle du couvent. Et d'adoucir.
Dans lequel on entre très peu.
Oui, mais c'est ça, exactement. Et c'est vrai qu'il suffit simplement d'une scène où on voit une jeune femme affalée dans du charbon pour comprendre qu'il s'est passé des choses terribles à l'intérieur de ce couvent. Donc voilà, j'ai trouvé qu'à ce titre-là, c'était un film qui avait certaines qualités de mise en scène.
Après Tu ne mentiras point, voici Les musiciens de Grégory Magne avec Valérie Donzelli et Frédéric Pierrot. Valérie Donzelli est Astrid, une riche héritière qui veut réaliser la dernière volonté de son père, réunir 4 Stradivarius, 2 violons, un alto et un violoncelle, pour l'enregistrement d'un concert unique. Astrid réussit à convaincre 4 virtuoses, 2 hommes, 2 femmes, qui ne sont pas faits pour s'entendre, au propre comme au figuré. Afin d'apaiser les conflits entre eux, Astrid fait appel au compositeur, Frédéric Pierrot à l'écran, de la partition qu'ils vont jouer. Le vrai compositeur du film, lui, s'appelle Grégoire Hetzel. Il est auteur de près d'une soixantaine de bandes originales, notamment pour Arnaud Desplechin. Quant au quatuor de virtuoses, il est composé d'interprètes aussi bien comédiens que musiciens. Il s'agit de Mathieu Spinozzi, Emma Ravier, Daniel Garlitsky et Marie Vial. Christophe.
Bah, c'est un joli film. Moi, j'ai trouvé que c'était un film très élégant sur la musique. Alors, ça souffrira probablement de la comparaison avec Enfant Phare, parce qu'il y a eu ce film sur la musique qui a un peu saturé le marché, pourrait-on dire. Mais c'est un film délicat, je trouve, sur les coulisses de la musique classique. Alors, à la fois les coulisses, c'est-à-dire le processus créatif, mais aussi le côté bankable, l'argent qui circule. Enfin, il y a cette dimension-là. Donc, c'est intéressant de nous rappeler que les stars du classique sont aussi des stars qui gagnent des fortunes, qui arrivent en bagnole avec des choses. Enfin, qu'on est dans cet univers-là. Alors, c'est un peu longué, mais c'est quand même un joli film de référence. Puis surtout, ça tient beaucoup autour des comédiens, je trouve. Moi, je retiens la présence de Mathieu Spinozzi, parce que c'est le fils d'un grand chef d'orchestre qui s'appelle Jean-Christophe Spinozzi. Et là, il est très bien. Puis Valérie Donzelli, elle m'a fait penser à Françoise Bettencourt. C'est-à-dire, non pas Liliane Bettencourt, mais sa fille, qui d'ailleurs est une mélomane. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez troublant. Et puis, il y a le compositeur raté, qui est quand même formidable, qui s'appelait Charlie Beaumont.
Frédéric Pierrot,
et je trouve que c'est vraiment, on voit bien à la fois la rancœur, l'aigreur, et en même temps cette espèce de mystère, le miracle de la composition, le miracle de la musique, de l'oreille absolue. Moi j'ai trouvé que c'était intéressant, il y a une belle référence à Kurt Cobain à un moment, je vous le signale, pour ceux qui sont vraiment mélomanes, vous le repérerez. En revanche, moi je trouve que ça se termine, alors pardon, c'est pas vraiment divulgaché, mais il y a un concert un peu long.
Florence.
Oui, la lenteur est quand même la caractéristique principale de ce film qui aurait pu être une comédie très enlevée, qui a vraiment des ingrédients pour être un film un peu aérien, léger à la Rapneau, mais ça pétille vraiment pas beaucoup. Je trouve que c'est un peu empesé par un respect de la musique classique comme genre très sérieux qui fait que ça prend pas, la comédie ne prend pas. On a toujours l'impression que les bulles de champagne pourraient affleurer, mais ça n'arrive pas. Et je trouve que c'est Frédéric Pierrot qui donne les vrais moments de comédie du film, c'est-à-dire que sur son visage, avec sa déception devant sa propre œuvre, là on a des moments vraiment assez délicieux. Parce qu'on voit ce que c'est qu'un artiste qui compose, qui ensuite se retrouve face à une vision de lui-même qui n'est pas celle qu'il aurait seul dans sa campagne, où on voit qu'il vit un peu en ermite à écouter les chants d'oiseaux. Donc ces choses-là, enfin ces ingrédients-là sont beaux. Et moi j'aimais bien l'idée aussi d'essayer de filmer la musique classique avec une vraie ambition. C'est-à-dire que contrairement à Enfant Phare, où là ce côté-là du film ne m'avait vraiment pas plu, on sent que le cinéaste cherche à écouter cette musique. Il met même sa caméra à l'intérieur du violon. Il est vraiment dans un intérêt profond pour ce que c'est que la musique classique, mais il est aussi un peu empesé par ça. J'ai l'impression que ce film ne décolle jamais.
Pierre.
Ben moi, je suis d'accord avec Christophe. Je trouve que c'est une très jolie petite surprise. C'est un petit film, mais il a du charme. Mais moi, je trouve que ça vraiment... Mais ça va vite. Ça a du charme, ça a un peu d'émotion. En effet, les deux... Enfin, Frédéric Pierrot est formidable en compositeur. Mais pourquoi il est formidable? Parce qu'il découvre que sa musique qu'il a faite il y a 25 ans est peut-être pas si bonne que ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Comment peut-on l'améliorer? Comment peut-on créer l'entente entre ces quatre musiciens? Et je suis d'accord que Mathieu Spinozzi est formidable parce que il est un violoniste égotiste, mais en même temps, ça va pas très loin, quoi. Alors, c'est peut-être pas du Rapneau, mais c'est juste en dessous. Et puis, juste pour dire pour Grégoire Hetzel, qui en effet est un formidable compositeur, un peu dans la lignée de Michel Legrand, de Georges Delerue, de ces grands compositeurs de jadis. Il avait fait notamment, outre les films avec Arnaud Desplechin, une musique que je vous conseille qui est magnifique pour un film de Cédric Anger qui s'appelle « La prochaine fois, je viserai le cœur », qui est un petit chef-d'œuvre. Donc rien que pour ça.
Alors, rapide, lent, qu'en est-il pour Muriel Joudet? À quel rythme tu vis, toi?
Bah, je pense que c'est pas qu'il est lent ou rapide, c'est qu'il n'y a pas de rythme, en fait, tout simplement. Du coup, on a... Désolée, j'aime me distinguer par une troisième option. Mais je pense que le film n'est pas travaillé au montage pour lui donner de l'allant. Et que c'est un vrai problème. Après, je suis d'accord sur le charme, c'est vraiment le mot qui ressort quand on voit le film. Le film a le charme du milieu qu'il filme, qui est un milieu très élitiste, très raffiné, très sophistiqué, très snob. On pourrait presque faire ce film dans le milieu de la critique cinéma. Et du coup, on découvre, et il y a un vrai plaisir à découvrir. Le casting des musiciens est absolument impeccable. Et je pense qu'ils volent complètement la vedette à Frédéric Pierrot et Valérie Donzelli. Mais il faut bien que le film se vende sur des stars. Mais en fait, c'est bien les quatre musiciens qui sont superbement choisis et qui sont très, très bien dans le film. À un moment, je me suis dit, c'est bizarre de faire un film sur un milieu aussi sophistiqué, de faire une forme aussi plate. Et j'ai l'impression, et ça c'est un problème de beaucoup de comédies françaises, c'est qu'on se dit, attention, ça doit être populaire, donc faut pas que ce soit trop beau. La scène de Nirvana, c'est une super idée, mais elle est pas filmée, la lumière est atroce, c'est pas cadré, il y a pas un seul plan dans le film. Et cette fatalité de, attention, si c'est trop beau, si c'est trop léché, si on fait des plans, si on commence à faire du cinéma, ça va faire peur aux gens, il faut sortir de ça. Et le film souffre vraiment énormément de ce problème-là.
Qui dans la salle souhaite prendre le micro pour les musiciens de Grégory Magne ? Bonjour.
Bonjour. J'ai trouvé ce film absolument chiant. Et la narration, je trouve, un peu atroce. Et j'ai aussi trouvé les dialogues parfois très peu délicats.
Pierre, tu veux ?
Non, non, mais l'entente entre des musiciens et entre des êtres humains, vous savez, ça n'est pas en un instant, donc il faut la montrer. Et dans un quatuor classique, l'entente, justement, je la trouve très très bien montrée. Moi.
Après les musiciens de Grégory Magne, on enchaîne avec ce nouvel an qui n'est jamais arrivé de Bogdan Mureșanu. Et merci à Elinca Negulescu pour les indications de prononciation. Nous sommes en Roumanie, à Bucarest, le 20 décembre 1989. Quelques heures donc avant la chute du régime de Ceaușescu, caméra à l'épaule, comme pour un documentaire tourné sur le vif, le film met en place une galerie de personnages, une équipe de télé officielle tente d'enregistrer la soirée du Nouvel An, une vieille femme est expulsée de chez elle, un étudiant tente de passer à l'ouest, un gamin écrit une lettre au Père Noël, en tout on suit 6 personnages, acteurs ou spectateurs, des événements qui se profilent, et c'est le montage qui tisse ce qui les relie les uns aux autres, comment la dictature entre dans le moindre interstice de leur quotidien. Le ton est celui de la tragicomédie, et je précise qu'il s'agit du premier long-métrage de Bogdan Mureșanu. Florence.
Oui, c'est un premier long-métrage, mais adapté d'un court-métrage qu'il avait réalisé sur le même sujet, et qui avait été primé, qui avait été très remarqué. Et il reste un peu de ça dans le film, c'est-à-dire qu'on sent qu'il a eu une très bonne idée, qui est ces dernières 24 heures, et qu'il la tient comme une métaphore, évidemment, d'un effondrement collectif et en même temps d'une renaissance, enfin d'une promesse de renaissance, puisque c'est la fin d'une dictature. Et je trouve que l'espèce de côté hyper vitaminé qu'il met dans son montage pour juxtaposer les différentes histoires est un peu fatigant et, à mon avis, n'était pas nécessaire. C'est parce que ce qu'il a dans la matière du film qui est passionnant, et alors pour le coup qui mérite totalement, je trouve, d'aller le voir, c'est qu'il nous raconte vraiment ce que c'est de vivre dans une dictature sur un plan très individuel, très précis, et sur un plan émotionnel. Et il y a notamment ce personnage très beau de Florina, qui est une actrice qu'on recrute pour tourner dans une émission de télévision justement pour fêter le Nouvel An, où elle doit...
À la gloire de Ceaușescu.
Voilà, elle doit prononcer des mots à la gloire de Ceaușescu, et elle a un vrai dilemme de conscience, c'est qu'elle ne veut pas prononcer ces mots-là, ça lui coûte. Et ça, c'est très fort de voir ça. On a rarement montré les choses comme ça. Il y a ce jeune homme à la coiffure, à la Bob Dylan, qui veut passer à l'ouest. On le voit partir en voiture. Il y a un plan sur sa voiture toute petite qui fonce sur une toute petite route. On sent que ça va être difficile, quoi, que le passage à l'ouest va être difficile. Il a une capacité comme ça de synthétiser les choses par un plan, par une situation qui est vraiment remarquable. Et en plus, il y a un travail sur l'image, la texture, l'atmosphère, la musique, le moindre petit élément de décor qui est très réussi. Donc tout ça, ça fait un film qui est une vraie expérience où on plonge vraiment avec ces personnages dans ce que c'est que ce moment où la dictature vacille et nous, on sait bien qu'elle va s'effondrer. Et j'aurais aimé que le cinéaste ait un tout petit peu plus la confiance de montrer ça plus posément. Mais ça vaut vraiment d'aller le voir.
Muriel.
Moi, j'ai pas réussi à prendre le train du film au sens où j'avais l'impression d'un scénario qui me roule dessus, d'un montage qui me roule dessus et qui insuffle du rythme à des scènes qui n'en ont pas. Et je pense que c'est le problème. Le cinéaste raconte comment le Boléro de Ravel lui a inspiré cette structure, qui est en fait une structure que voilà, tout le monde le devine très rapidement. On monte progressivement vers un crescendo orchestral. Et en fait, le problème, c'est que ça fait qu'on attend un climax. Et tout ce qui précède ce climax, pour moi, ressemble un peu à une sorte de salle d'attente cinématographique. J'attendais en fait que ça monte. Et je trouvais que sur le terrain de l'absurde, cette manière aussi de filmer en caméra portée, j'avais l'impression de voir un peu du... Lars von Trier, mais sans la méchanceté ni la folie. Et donc, je trouvais tout un peu plat. Et puis surtout, ouais, moi, j'aime pas, en fait, quand les films sont construits à partir de leur fin. Et je sentais comme ça qu'on était pris dans un gros scénario bien verrouillé. Et donc, je suis passée complètement à côté du film à cause voilà, de ces problèmes.
Fin que les personnages eux-mêmes ignorent, évidemment. Et ça, on le ressent.
Je le sais. Et en plus, il y a un problème, c'est qu'il y a la meilleure scène du film dans la bande-annonce. Donc,
ne regardez pas la bande-annonce. Pierre.
Ben c'est marrant, c'est un film très marrant, mais avec un humour noir terrible. Enfin, moi, de la première à la dernière minute, j'ai trouvé ça passionnant. Mais ça m'a rappelé, enfin, c'est très roumain, c'est bête ce que je dis, mais c'est un film très roumain.
Ça veut dire quoi ?
Il y a une quinzaine d'années, par exemple, ils étaient spécialistes de ça, et c'était très à la mode, beaucoup moins que maintenant, le cinéma roumain. Et il y avait, par exemple, un film qui s'appelait La mort de Dante Lazarescu, qui se passait dans un hôpital, comme ça, où il y avait plein de personnages, et ils aiment ça, et ils arrivent chaque fois à se sortir de situations qui... Enfin, la séquence que je ne vais pas raconter en détail, mais la lettre qu'écrit le gamin au Père Noël, c'est un bonheur de spectateur et de film. Et la scène où l'actrice qui veut pas réciter ce texte patriotique est obligée d'aller chez un voisin dont elle connaît la violence pour essayer de lui faire quelque chose, mais c'est terrible. C'est une des scènes les plus terribles qu'on puisse voir au cinéma. Quelqu'un qui en arrive là, en quelque sorte, pour ne pas faire ce qu'on lui demande. On sort de là, on se dit... C'est ce que j'aime au cinéma, c'est-à-dire l'humour, l'angoisse, la terreur, en même temps, en se disant « qu'est-ce qui va leur arriver ?» Et voilà, je trouve ça passionnant.
Christophe.
Ah oui, mais je trouve aussi, hein, c'est un enchevêtrement incroyable de destin pendant les derniers jours de Ceaușescu. Alors c'est vrai qu'il y a un cinéma roumain marqué par l'humour noir, je dois dire, et moi je suis assez sensible à cet humour noir, parce que vous en parlez sur un mode un peu tragique de tout ça, mais que la fille va voir le tortionnaire de l'immeuble pour dire « pouvez-vous me frapper ?» Comme ça j'aurai les yeux au beurre noir et je passerai pas à la télé demain.
Je voulais pas le divulgacher, tu vois.
Regarde, dit, écoutez, je frappe ma femme, mais je ne peux pas vous frapper vous, je n'ai pas de raison.
Tu me remplaces, c'est adorable.
Alors, je dirais, puisque je ne peux rien dire, que c'est un film dans la veine de Goodbye Lénine, hein, c'est-à-dire qui montre évidemment la triste vie en Roumanie soviétique. C'est filmé un peu caméra à l'épaule, à deux caméras, vite. Ce n'est pas un film esthétiquement ravageur.
Pas en intégralité. Hein,
c'est un film un peu reportage, on va dire, sur un mode un peu reportage.
Filmé, c'est un peu filmé à la façon des années 90, justement, avec des zooms. Il y a aussi une tentative de faire un film comme si on était à l'époque et de pas faire un film d'époque. Donc ça, c'est assez réussi, pour le coup.
Mais ça s'inscrit dans un cinéma roumain très drôle, très sarcastique. Ça m'a fait penser au film de Christian Mungiu, par exemple, entre beaucoup d'autres, parce qu'il y a vraiment un cinéma roumain intéressant. Et là, j'ai bien aimé ce travail, ce premier film, ce premier long métrage de ce Bogdan Mureșanu.
La parole est maintenant au public, s'il le souhaite, pour ce nouvel an qui n'est jamais arrivé de Bogdan Mureșanu. Oui.
Oui, merci, bonjour.
Bonjour.
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je me suis un peu ennuyé dans ce film. J'ai trouvé qu'il était un peu long. Mais il y a des choses qui me paraissent quand même pas vraiment cinématographiques. Je veux dire, la caméra qui va du visage au téléphone, du téléphone au visage, je trouve ça un peu vieillot comme façon de filmer. Mais cela dit, il y a des arguments très intéressants, mais il y a quand même 6 histoires en même temps. Il y a des moments où on a du mal à comprendre le montage, je trouve. Mais la fin vaut le détour. Donc il faut être patient et tenir la route. Merci.
Monsieur.
Il ne faut surtout pas sortir avant la fin du générique, car on voit ce qui justifie le titre du film. Cela dit, ça a beaucoup de mal à se mettre en place, mais après c'est très intéressant. Et on retrouve l'humour roumain. Comme le disait Pierre Murat, c'est vraiment très très drôle. Allez voir, mais surtout, attendez la fin du générique qui est long et vous allez avoir une surprise. Voilà.
Après ce premier film, donc, ce masque cinéma se termine par une réunion du G7 avec Rumours, Nuit blanche au sommet, film que le Canadien Guy Madin a co-réalisé avec les frères Evan et Galen Johnson. Bienvenue en Allemagne, où se déroule le sommet du G7. Cate Blanchett est la chancelière qui accueille Denis Ménochet en président de la République française, Charles Dance en vieux président américain cynique et narcoleptique, ou encore Roy Dupuis qui lui campe un premier ministre canadien séducteur et en proie à des peines de cœur. Ces 7 chefs d'État se réunissent pour rédiger un communiqué sur, je cite, « la crise actuelle », dossier aussi copieux que l'incompétence de ceux qui tentent de la résoudre. Toutes et tous dînent dans un lieu isolé, en bordure de forêt, mais le personnel disparaît mystérieusement et la forêt abrite des créatures menaçantes et priapique, cadavre exhumé lors de fouilles archéologiques. À la fois farce de l'incompétence politique et parodie de film de zombies, Rumours, Nuit blanche au sommet, a remporté le prix du jury du Festival international du film fantastique à Gérardmer. Est-ce que tu aurais voté pour, Muriel ?
Non. Non, pas du tout. Non, j'essaie de doser, parce que c'est quand même un petit film, donc mais je n'ai pas compris ce film. J'ai l'impression d'une mauvaise idée étirée sur 2 heures. J'ai l'impression, le truc le plus frappant, c'est notamment ce G7 qui a l'air de dater de 2012, en fait, où on se manque de Merkel, et puis Denis Ménochet fait penser à François Hollande, et en fait, le temps politique va très vite, et du coup, toute la satire politique, même si les réalisateurs s'en défendent, est complètement inopérante, parce qu'elle est complètement ringarde, et je trouve que le film fonctionne sur un argument que moi, j'aime pas du tout, qui est très démagogique, qui consiste à dire, vous allez voir les puissants. Par ailleurs, je pense pas que le G7 soit un endroit qui fasse rêver ou qui fasse fantasmer, et que ce soit un endroit de puissance si forte que ça. Vous allez voir ces puissants dans une situation de faiblesse. C'est le seul argument du film, qui est tiré, encore une fois, sur 2 heures, et qui, pour moi, je le trouve très démago. Alors, évidemment, après, il y a des forêts magiques. Moi, je déteste les forêts oniriques, éclairées avec des lumières roses et bleues.
Oui, là, effectivement, t'as pas dû aimer du tout.
Ah non, mais ça aussi, c'est très, très, très ringard. Et puis ensuite, il y a une sorte de survival movie, de film de zombies, qui s'étire, qui n'arrive pas à se trouver, qui fait du surplace. Donc voilà, je n'ai pas compris le film, et je n'ai pas réussi à modérer ma détestation du film, donc je suis désolée.
Christophe ?
Ah, c'est consternant.
En tout cas, je m'étonne.
Un avis pareil, hein, vraiment. Alors, ici, ils sont mis à 3.
Je m'étonne que les réalisateurs disent qu'il ne s'agisse pas d'une satire politique, parce que c'est...
C'est formidable, parce qu'une satire, c'est une satire du pouvoir, mais éculée, avec des vieux clichés qu'on a... Depuis, ça fait 50 ans qu'on entend les mêmes clichés. Alors, en plus, quand on fait une satire politique, pardon, mais mettre Joe Biden, moi, je veux bien, mais ça, aujourd'hui, ça fait un peu minable, quoi, de se moquer de Joe Biden, qui, effectivement... à des crises justement de narcolepsie lui aussi
presque à le regretter gâteux.
C'est pas le moment de faire ça quand on veut faire une satire politique, me semble-t-il. Et puis alors, tu as raison, Muriel, Denis Ménochet en François Hollande, mais que vient-il faire là? Je veux dire, on n'est pas en 2012, enfin il y a quelque chose de complètement absurde, et en plus aucun personnage n'est crédible, c'est-à-dire que je trouve que tous ces dirigeants de ce monde sont tous des espèces de caricatures d'elles-mêmes. On dirait une pièce de théâtre d'avant-garde ratée, hein, comme si on avait mis sur scène comme ça alors des petites scénettes d'avant-garde politiquement correct, mais qui ne mène absolument nulle part. Ça se veut drôle, c'est désolant. Et je dirais pour terminer que c'est un peu de l'humour potage, ça se fait beaucoup, un peu héritant de la grande époque de Canal+. Moi, c'est ça que je vois un peu dans ce film navrant.
Canal+ appréciera. Florence ?
Moi, je sauverais quand même le gag qui consiste à montrer ces personnages en train d'essayer de rédiger une déclaration qui ne dit rien. Et il y a une douzaine de variations de cette déclaration avec des phrases vraiment totalement vides de sens. Et ça, j'ai trouvé ça assez drôle, surtout que malgré tout, Cate Blanchett, elle imprime la pellicule, on la regarde, elle est très drôle. Elle s'amuse beaucoup. Elle n'imite pas du tout Angela Merkel, malgré le fait qu'elle joue en effet une chancelière allemande. Elle invente un personnage qui est totalement improbable et qui a une sorte de fixation amoureuse pour le premier ministre canadien, ce qui donne lieu à des ébats dans les bois. Ça, c'est assez drôle. Enfin, pour moi, si ça avait duré 20 minutes comme ça, en remontant le film, ça aurait été plutôt une expérience plaisante. Le problème, c'est que, en effet, ça part dans toutes les directions, dans tous les styles visuels aussi, avec une sorte d'emprunt au roman photo très étrange. Et on a l'impression que le fait qu'il y ait 3 réalisateurs pèse énormément sur le film, parce qu'il y a clairement 3 films qui coexistent vaguement et qui ne s'assemblent jamais.
Pierre, pour terminer.
Moi, je ne pense pas que les 3... Non, mais c'est un film de Guy, puisque Guy, c'est comme ça qu'on dit, Guy Madin ?
Je crois, oui.
Je crois. Alors, Guy Madin. Guy Madin, c'est un mec qui a fait des cours, beaucoup de cours. Mais c'est le même truc. C'est-à-dire, généralement, il y a des images en noir et blanc, très floues, qui bougent beaucoup, très expressionnistes.
Oui, mais là, le film est en couleur.
Pardon ?
Là, le film est en couleur.
Là, il est en film en couleur. Mais c'est pareil. Enfin, le problème, c'est qu'il n'y a pas le style de ce Guy Madin avec ses 2 complices, c'est-à-dire un hommage au cinéma muet, un hommage au lyrisme fou, etc. Là, c'est plat. commune, l'immonde. C'est-à-dire qu'il ne se passe... Je parlais de Cronenberg qui n'avait pas beaucoup travaillé, mais là non plus, le scénario, il n'existe pas. Les personnages n'existent pas. Alors à la fin, il y a un immense cerveau qui dénonce les pédophiles.
Une IA, c'est une IA anti-pédophile.
Oui, une intelligence artificielle qui a dit « Pourquoi pas ?» Et puis alors, il y a le ministre québécois qui s'adresse au peuple premier, comme on dit, au Canada, on a su ça, et qui sont des zombies et qui sont là, qui le regardent. C'est atterrant. Mais atterrant.
Ouais. Pas du David Lynch.
Thank you, Peter Murat. Voilà. Un spectateur ou une spectatrice pour Rumours, Nuit blanche au sommet de Guy Madden et des frères Johnson? Vraisemblablement non. Alors, virgule. Un coup de cœur de chacun pour terminer ce masque cinéma. Tu commences, Christophe?
Oui, alors moi, c'est un livre de Maurice René, enfin autour de Maurice René, qui s'appelle Le métier de comédien, paru aux éditions Séguier. En fait, c'est une espèce de petit dossier sur cet acteur flamboyant, disparu d'une autre époque, qui était Maurice René, l'acteur de Plein Soleil, ce personnage qui était un dandy, un flambeur, il roulait en Lamborghini, il était tous les soirs dans cette discothèque renommée qui est Castel. Et donc, ça raconte tout ça, mais le livre est très bien fait parce qu'il y a un texte biographique de Jean-Pierre Montal qui est remarquable, dans lequel il parle de la complexité du personnage de Maurice René, du fait que Maurice René, c'était le cinéaste du tracas intérieur. Et il parle notamment d'une scène que j'ignorais, c'est que Maurice René a vécu dans une communauté hippie avec Maria Pacôme. Alors on a envie d'être là, quoi. On se dit, ça devait être génial ce moment-là. Alors il y a aussi des entretiens entre Maurice René et Hervé Le Botterf, notamment. Et je précise que Maurice René est mort en 1983, donc ça date.
Florence.
Alors c'est un autre livre qui parle du cinéma d'une façon dont on n'en parle pas souvent, qui est le livre Respect de Anouk Grimbert, qui est sorti il y a déjà un mois, je pense, aux éditions Julliard. Et c'est un livre où Anouk Grimbert raconte sa vie, donc une vie qui est marquée par les violences sexuelles, notamment dans le cinéma, puisqu'elle parle de ses années en tant que compagne et actrice fétiche de Bertrand Blier. D'une façon très saisissante, très intéressante. Je trouve que quand on parle, on voit autant de films que nous, critiques ou spectateurs du Masque et la Plume, auditeurs, et que nous avons envie de réfléchir à ces films. C'est aussi intéressant de savoir comment ces films sont faits, dans quelles conditions pour ceux qui les font. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir le fait qu'elle parle du prix d'interprétation qu'elle a reçu à Berlin à l'époque pour un film qui s'appelle Mon homme de Bertrand Blier et qu'elle décrit comme une véritable torture pour elle, un film de torture. C'est justement pour ce rôle qu'elle a été primée et je trouve que c'est intéressant de réfléchir à ce qu'on attend des actrices, ce qu'on adule chez elles, qui est souvent de la souffrance et souvent, voilà, il y a un prix de chair très lourd qui est payé. Et Anouk Grimbert pose les choses dans un récit simple, direct et très fort. Donc,
et remarquablement écrit.
Livre. Très bien écrit, respect.
Et j'ajoute juste que ça n'est pas qu'un livre de témoignages, c'est aussi un livre où elle pense cette violence et comment elle en est arrivée là. Il y a une réflexion sur toutes les situations qu'elle décrit. Respect, donc d'Anouk Grimbert. Muriel.
Alors moi, c'est encore un livre et un gros livre. Décidément. De Bernard Benoliel qui s'appelle Clint Eastwood, Je suis celui que je veux être, aux éditions de l'Œil. C'est un livre qui ne choisit pas entre l'essai théorique et le livre d'image. Il est richement illustré. Souvent, on a un peu ou l'un ou l'autre. Là, il y a vraiment les deux. Et qui retraverse en fait 50 ans d'histoire du cinéma américain, les débuts de Clint Eastwood chez Sergio Leone, chez Don Siegel, la difficulté à... d'Eastwood à se faire reconnaître comme cinéaste, puisqu'il y a eu ce mot de la critique américaine Pauline Kael qui a dit de Dirty Harry que c'était un film quasi-fasciste, et ce mot de fasciste est resté comme une ombre tout du long sur la carrière de Clint Eastwood. Et le mérite du livre, c'est de sortir un peu de cette idée d'une œuvre qui exalterait une sorte de patriotisme béat, d'individualisme américain, et qui trouve une obsession très inquiète pour la fiction réparatrice, c'est-à-dire l'idée que les films viennent réparer quelque part l'image d'un peuple américain, essaye de trouver l'idée de la communauté, de réparer, de rafistoler la communauté et le peuple américain. Et finalement, tout le livre réintroduit de l'ambiguïté, de l'inquiétude, même de l'angoisse et finalement, en un mot, de l'ombre dans une carrière qui est souvent mal comprise.
Clint Eastwood, Je suis celui que je veux être, de Bernard Benoliel, aux éditions de l'Œil. On termine avec toi, Pierre.
Alors, c'est des DVD, c'est trois films d'un auteur que j'aime beaucoup, à redécouvrir, me semble-t-il, qui est Alan Rudolph. C'est paru chez BQHL Édition. Alors, parmi les trois, j'en ai choisi un, c'est Vanda's Café, qui date de 1985. C'est une ville perdue et corrompue, un flic sorti de tôle qui tombe amoureux pour la dernière fois, c'est Chris Christopherson, une patronne de bar génialement interprétée par Geneviève Bujold, et deux chansons interprétées par Marianne Faithfull. Donc c'est romanesque, romantique, élégant, inquiétant, mystérieux, je vous le recommande.
Vanda's
Café.
Et lors de la dernière émission de cinéma, je n'avais pu citer que le titre du livre que j'avais choisi, alors qu'il mérite bien mieux. Je vais donc développer un peu mon enthousiasme pour Le cinéma buissonnier, beau titre d'un livre d'entretien entre Jean-François Stévenin et Romain Sublon. Stévenin, donc acteur pour Truffaut, Rivette ou Jarmouche, réalisateur de 3 films. D'ailleurs, dans le livre, il dit « Moi, j'ai 4 enfants et 3 films. Il y a 2 choses qui m'ont sauvé à chaque fois, les enfants et le cinéma. » Et alors, Jean-François Stévenin était quelqu'un de plutôt rétif aux interviews. Il était difficile à choper, comme on dit. Mais Romain Sublon a trouvé la solution, le rencontrer chez lui, à Meudon ou dans des restaurants. Et c'est peut-être ce cadre-là qui permet à ces conversations d'être buissonnières, elles aussi, parce que quand on passe d'une interview à l'oral, quand on passe de l'oral à l'écrit, ça lisse souvent la parole, mais là, en lisant, on entend Stévenin, on entend avec son vocabulaire à la fois populaire et précis, la façon dont il parle de le Rassam, le Rochon. Il est évidemment en question de Johnny Hallyday, de Jimi Hendrix, de Céline, mais surtout de sa recherche de perfection et de son cinéma chorégraphié. Donc, en lisant, on l'écoute, Jean-François Stévenin, Le cinéma buissonnier, entretien avec Romain Sublon, c'est publié chez Capricci. Pierre Murat, Muriel Joudet, Florence Colombani, Christophe Bourseiller, merci d'avoir participé à cet épisode du Masque. La semaine prochaine, nous débattrons de l'actualité de la scène et la suivante, nous serons en direct du Festival de Cannes pour commenter le palmarès. Guillaume Giraud réalise Le Masque et la Plume et c'était avec Cédric Chatelus, Clément Berman, Tahar Bouklifa, Leslie Horowitz et Nathan Lavalard aujourd'hui. Merci à Elinka Negulesco pour la coprogrammation de l'émission préparée avec Nina Malray. Ma bande et moi, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain sur France Inter. Évidemment.